Ça va mieux, Jacques Laverne, Jean-François Mignard et Léo Dansokaras, bonjour.
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 Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Donc, vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, bien sûr, comme d'habitude, pour commenter cette actualité. L'équipe est là. Léonore Socaras, qui est un peu plus loin, elle n'est pas en studio, elle est dans son bureau à l'université, et Jean-François Mignard, qui lui, de retour de Corse, bronzé comme il se doit, est près de moi, quant à notre ami Pierre Larouille, on ne sait absolument plus où il est passé.
Nous sommes absolument désespérés.
Absolument. Nous allons lancer certainement un avis de recherche.
À l'intérêt des familles.
Oui.
Et des amitiés.
Alors, le sommaire aujourd'hui, il vous étonnera pas certainement, le conflit au Moyen-Orient, et puis nous parlerons du projet de loi sur l'immigration, et ensuite des élections argentines, où il se passe là-bas des choses que je qualifiais en micro tout à l'heure d'un peu surréalistes, compte tenu au moins de la personnalité d'un candidat. Voilà, c'est CVM, ça va mieux, c'est parti, et c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. On commence par la traditionnelle citation. La souffrance attire plus aisément, la sympathie que la réflexion. Donc c'est quand même assez d'actualité.
Oui, je vois bien les éléments de contexte, je ne connais pas l'auteur.
Alors l'auteur, c'est Oscar Wilde, qui en 1891, c'est pas nouveau, mais voyez, bon, l'histoire finalement, ce n'est que l'éternel recommencement. Il a écrit ça dans un livre que je n'ai pas lu, je le confesse, et qui a un titre curieux, ça s'appelle « L'âme humaine sous le régime socialiste ».
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, oui, curieux. Alors un chiffre, après la citation, il y a toujours le chiffre, et ce chiffre c'est 79%. Alors vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous le dire, c'est la part de l'extraction mondiale de minerais métalliques qui provenait des écosystèmes les plus riches de la planète, donc forestiers et tropicaux, en 2019. Pourtant, nous le savons amplement, nous savons beaucoup de choses, mais nous faisons semblant de ne pas les voir. L'extraction minière est néfaste pour la biodiversité. Elle utilise des produits chimiques qui polluent l'eau, les sols et l'air. La Commission européenne est en train de fabriquer une loi qui vise à faciliter l'ouverture de mines en dehors de l'UE. Bon, on n'est quand même pas fous, on ne va pas se pourrir notre territoire.
Bien, laissons ça aux pauvres de l'extérieur.
Voilà, une loi donc qui prévoit un soutien financier et un allègement des contraintes. Ceci dans le but, très respectable certainement, de fournir à l'Union européenne un approvisionnement plus conséquent et plus sûr en minerais indispensables pour la transition verte, ce qui est quand même un énorme paradoxe, dénoncé par Laura Verrick, que je ne connais pas, mais qui s'occupe de l'Observatoire des multinationales et qui a dit c'est une offrande aux industries polluantes. Pour le moins, elle a raison.
Oui, c'est offrandes qui sont relativement rares, on en conviendra.
Oui, voilà, c'est exceptionnel, c'est pour ça que l'on parle, tellement exceptionnel. Allez, attaquons le premier sujet, le Moyen-Orient. Et ce que je qualifie de piège, puisque c'est celui dans lequel Israël s'est engouffré, entraînant également, mais jusqu'où la question est posée, ses alliés et soutiens traditionnels que sont les États-Unis et l'Europe. Tout a commencé par une intolérable provocation prenant la forme de l'insupportable massacre de centaines de civils désarmés, d'une prise d'otages israéliens, un véritable crime de guerre perpétré par un mouvement terroriste, le Hamas. Hamas sunnite, mais instrumentalisé, ça c'est quand même curieux, et armé par les Iraniens chiites. Et Hamas animé par un discours génocidaire, comme d'ailleurs les chiites, et l'Iran à l'endroit d'Israël, un Iran qui a pour allié la Russie de Poutine, certainement très heureux de voir ce nouveau front de guerre s'ouvrir, ce qui ne peut avoir pour lui que de multiples avantages. Et comme l'a fort justement dit Monseigneur Jean-Paul Vasco, vous savez qui c'est, ne savez pas, c'est l'archevêque d'Alger, Éléonore le connaît, Jean-François Mignard, non, parce que il ne fréquente pas l'église. Cet archevêque a eu cette phrase, et vous allez en juger de la pertinence, la violence barbare du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause. En effet, depuis des années, la politique d'Israël, qualifiée d'imbécile par Eli Barnavi, qui est un grand intellectuel israélien, ambassadeur notamment d'Israël en France en son temps, et notamment la politique de son premier ministre Netanyahou, a créé les conditions du désastre. Ce dernier, personnage contesté, sulfureux, s'est allié pour sauver son poste et surtout détourner le cours de la justice qui lui demande des comptes parce qu'il aurait, paraît-il, mis un peu la main dans le tiroir caisse. Eh bien, il s'est allié à des extrémistes très droitiers, notamment religieux, qui sont, eux, de véritables boutefeux. Une politique qui a consisté à violer le droit international, à ignorer les résolutions de l'ONU, à pratiquer une colonisation rampante en Cisjordanie, à affaiblir et marginaliser l'autorité palestinienne et finalement à laisser toute une population sans avenir et espoir. Là où il lui fallait travailler en règlement du conflit dans l'esprit des accords d'Oslo, maintenant bien loin, mais qui a eu leur heure de gloire, parvenir progressivement à des relations privilégiées basées sur le respect mutuel et, je cite Jean-Louis Bourlange, le partage des bénéfices de la paix. Jean-Louis Bourlange étant le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et il a eu d'ailleurs, je vous le dis, un discours extrêmement pertinent à l'Assemblée. Vous pouvez le voir sur YouTube d'ailleurs. Vous verrez, c'est un moment intéressant et c'est certainement beaucoup plus clair, beaucoup plus documenté que ne l'est les propos et l'attitude du Quai d'Orsay aujourd'hui. Donc, je reprends mon propos après avoir été interrompu grossièrement par moi-même.
On n'est jamais aussi bien servi que
voilà. Même. Les États-Unis qui ont surarmé Israël et la politique, et je recite Jean-Louis Bourlange, pousse au crime de Trump, notamment à l'occasion des accords d'Abraham et de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. La tolérance coupable de l'Europe devant les dérapages ci-dessus évoqués ont aussi une large part de responsabilité dans la situation catastrophique actuelle. Bien évidemment, Israël a parfaitement le droit et le devoir de se défendre, mais la question qui se pose aujourd'hui est bien celle-là, avec quels moyens ? Il semblerait que ce pays ait choisi la mauvaise réponse, la plus tentante, la plus simpliste, la plus facile, la force aveugle et brute au détriment d'une population civile palestinienne, à son tour martyrisée et massacrée. Quand la victime devient bourreau, nous en avons les tristes exemples, avec bien évidemment le risque de l'embrasement complet de la région, un nouveau coin enfoncé entre les pays au fonctionnement démocratique et les autres, entre les pays occidentaux et ceux dits, un terme assez malheureux à mon avis, du sud global. Poutine et les mollahs iraniens, peut-être même la Chine, ont finalement bien joué leur coup. Sur cette question, bien, Léonore ?
Après cette introduction, c'est difficile.
Oui, je le sais.
C'est toujours aussi brillant et donc difficile. Vrai,
j'ai mis la barre haut d'entrée, je le sais.
On en a l'habitude.
Oui. alors, c'est vrai que c'est un conflit, comme on l'avait parlé la mission dernière, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est un conflit, voilà, ça fait 34 jours déjà. Enfin, non, voilà, c'est à peu près un mois de ces situations. Et on dirait que c'est la division, soit simplement au niveau du gouvernement, sinon aussi de la population. On voit comment les gens prennent parti d'un côté et d'un autre. Et aujourd'hui, justement, ici en France, il y aura une conférence de presse avec les lycées pour initier une espèce de sous-entente pour comprendre une aide humanitaire vers Gaza. Une aide humanitaire et également une demande pour que cette guerre puisse s'arrêter. Ce qui est compliqué de tout ça, c'est que la place de chaque gouvernement quand ils prennent le positionnement pour trouver une entente entre les deux. Et c'est une situation qui devient compliquée parce qu'on parle des civils, on parle des gens qui meurent, des enfants, des familles, des gens innocents. Donc c'est ça qui est compliqué. La France commence à prendre une place en se disant voilà, on va essayer de avoir un espace de dialogue, une conférence humanitaire. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais les Israéliens ne seront pas présents. C'est plus pour aider et pour donner une aide humanitaire à Gaza. Et d'autre côté, c'est la place de l'Union européenne face à ces conflits. Comment l'Union européenne, elle peut être en place pour donner une aide en Israël et en Palestine, c'est-à-dire comment elle va s'engager auprès d'Israël et la Palestine. Donc c'est des questions aussi que je me pose en me disant c'est un conflit extrêmement compliqué, mais la recherche de la paix, même si on est là pour donner un point de vue, ça doit être l'objet principal. Une recherche de que les nations puissent entendre pour mieux vivre, malgré les différences des croyances, malgré les différences de situations actuelles, des violences en extrême qu'on va. Et en même temps, j'en profite pour dire qu'on a oublié un autre conflit, c'est l'Ukraine. Donc, je sais que je m'éloigne un petit peu, mais c'est bien de le rappeler. Il y a Israël, il y a Palestine, mais n'oublions pas l'Ukraine aussi. N'oublions pas le conflit actuel qu'il y a à l'Ukraine.
Jean-François.
Oui. Personnellement, mais je pense pas être forcément le seul. La situation me fait osciller entre, on va dire, de la désespérance. C'est pas mon fond de jeu habituel. Hein, l'agacement et l'indignation. Alors, j'avais un très cher ami qui était un très fin connaisseur de la situation locale, qui s'appelait Michel Tubiana, qui était le président de Romain d'Europe et qui, à ce titre, était en ligne directe avec les protagonistes de l'époque. C'était ça, il y a une dizaine d'années. Et souvent, il disait, ce qui se passe en Israël, c'était ce qu'on appelle un juif de gauche, ce qui semble-t-il est quelque chose qui devient de plus en plus rare.
Ah, il y en a beaucoup, ils ont quand même beaucoup manifesté contre cet escroc de Netanyahou.
Voilà, ouais. Difficile à vivre dans ce qui est annoncé comme étant une démocratie, mais qui laisse rêveur quant à ses pratiques. Il disait, ce qui se passe là-bas a le pouvoir mortifère de rendre les gens fous. C'est en ce sens-là que moi je suis assez désespéré. Alors désespéré d'une part parce que ce qui est arrivé à Gaza était tout sauf imprévisible. C'est certainement ce en quoi l'évêque d'Alger a raison, que je ne connais pas, mais qui est certainement quelqu'un fréquenté au regard de ce qu'il a pu dire. Hein. C'était, on ne peut pas imaginer comme ça qu'on colonise à tour de bras la Cisjordanie, qu'on fasse vivre dans les pires conditions toute une population, en gros, de 2 millions de personnes, dans l'équivalent de deux départements français, gérés par une autorité palestinienne discréditée, qui n'est devenue que l'outil de contrôle social d'un gouvernement israélien d'extrême droite, je veux dire, et tout ça avec des déclarations qui sont des déclarations guerrières, des pratiques de provocation qui depuis le numéro de Sharon sur l'esplanade des mosquées, en passant par ce que peut faire Netanyahou aujourd'hui, je veux dire, on a chauffé à blanc, je pense, toute une population. Et à la sortie, on ne peut pas ne pas constater les dégâts de ce genre de choses. Alors, c'est la désespérance, ça. C'est la désespérance de se dire, moi, j'y suis allé personnellement. Je vais faire un petit témoignage personnel. C'est pas trop l'habitude, mais je suis allé une grosse semaine, ce qui est très très peu, hein, pour le coup avec des universitaires israéliens et des universitaires palestiniens sur une thématique qui était la haine de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire quand même. Hein, oui. Et c'était pas pour rien que nos amis ou nos collègues universitaires là-bas nous faisaient venir sur cette question-là. Et je dois avouer que j'étais reparti désespéré, que ça renforce cette désespérance-là, devant le constat que j'avais pu faire de cette espèce de fossé terrible qui se creusait chaque jour davantage, et cette incapacité à gérer, sous des dehors et des discours d'ailleurs religieusement très élaborés sur l'amour de l'autre, sur l'universalisme et le respect des valeurs réciproques, se traduisait au quotidien par une haine partagée par une forte proportion des populations diverses, hormis quelques intellectuels qui eux-mêmes ne s'en sortaient pas. Voilà. J'étais désespéré. Alors, ça, c'est la partie désespérée. Quand est-ce qu'on va se sortir de cette affaire-là? Agacé aussi, je dois avouer, agacé par les suites de ce refus-là, de voir. Je suis très agacé, je dois avouer, des débats d'arrière-boutique médiatique sur les mots obligatoirement à utiliser et qui, si on ne les utilise pas, nous catégoriserait dans un camp du pour ou du contre. On n'utiliserait pas le terme terrorisme pour désigner le Hamas. On prendrait un peu de recul sur une simple condamnation sans aucune considération du contexte, qu'on se voit d'entrée taxé d'antisémitisme et d'être parti au conflit. C'est insupportable, personnellement. J'ai été amené même, alors, très modestement, renvoyé dans les touches quelques journalistes qui s'amusaient à ce jeu-là. J'ai vu que j'étais pas le seul. J'ai vu quelqu'un comme Hubert Védrine, qui est pas forcément ma tasse de thé, et qui tient là-dessus un discours, me semble-t-il, aussi assez responsable concernant la situation. Renvoyer quelques journalistes dont leur inconséquence et leur incompétence professionnelle, semble-t-il, les amènent à se refaire une virginité en étant très attentif sur les mots. On eût préféré qu'il ait été davantage sur leur engagement professionnel et leur analyse. Tant on ne les a jamais entendus sur la situation telle qu'elle était. Voilà. Et indigné. Alors, faut faire attention à pas soi-même devenir fou comme le présageait, le regretté Michel Tubiana, indigné par l'utilisation politicienne qui est faite ici du conflit là-bas. On est en train d'assister, je trouve ça, je suis indigné par ce qui se passe par exemple autour des appels à une initiative sur l'antisémitisme, ouais, dans lequel chacun, comme disait le général des cinémas, on fait dans le gaullisme, fait sa petite popote sur son petit feu pour essayer de se démarquer des uns et des autres, et de s'aligner vers le plus offrant médiatico-politicien qui existe. Voilà. Je suis particulièrement indigné par ça. Le gouvernement, qui est incapable, impotent sur cette question-là, qui n'a pris aucun recul sur une espèce de suivisme, il va essayer de faire de l'humanitaire. On sait que c'est... Je pense à Ronnie Broman. L'humanitaire, souvent sans politique, c'est la pire des situations. Et ce gouvernement-là est en train d'essayer de jouer les divisions diverses et multiples autour de la place de l'extrême droite, de l'extrême gauche, etc., etc. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Voilà, je voulais le dire. Et enfin, je suis pas sûr qu'on se rende compte en quoi les positions, cette espèce de clivage permanent autour de cette question-là et de dérive dans laquelle nous serions amenés à devoir prendre parti, sa nuance, nous amène aujourd'hui à un niveau géopolitique pour le coup, à rejoindre aveuglément et de manière panurgique le Nord dans un conflit qui serait aujourd'hui contre le Sud. Et je reprends la perspective qu'évoque Léonora. Mettons en perspective ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Afrique pour la France, et ce qui s'est passé en Irak, et écoutons, me semble-t-il, un peu attentivement la presse étrangère, la rue des autres capitales, des autres pays. Et pour se rendre compte que petit à petit nous glissons vers un alignement pour le coup sur quelque chose qui serait une représentation du monde séparée entre les bons et les méchants au détriment de toute intelligence et de tout sens politique. Voilà.
Tout à fait.
Oui, Léonore, bien sûr, un commentaire.
Mais alors revenons sur l'antisémitisme. C'est vrai que ça. Un état d'esprit dans lequel les gens se divisent. C'est un conflit qui commence à toucher à différents niveaux, dans les sports, dans le travail. Ça, les gens, ils ont peur de dire quoi que ce soit, parce que ça peut affecter la vie, leur vie quotidienne. Et on ressent comme une espèce dans l'atmosphère, comme si on revient dans un état d'esprit de l'époque, même si j'ai un peu peur de le dire, mais nazi, où il faut pas parler de, voilà, d'une telle communauté parce qu'on sait pas comment ça va réagir, donc il y a une espèce de peur. D'autre côté, c'est la place des nations dans ces conflits. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler d'une construction pour la paix, je le répète, la paix, ou est-ce qu'on est en train de voir les intérêts de nos communautés en particulier et ses alliés. Donc, faut voir la différence dans ces deux choses et également ce sentiment d'antisémitisme. Une espèce de... On exclut un groupe où on va y sacrer une violence à tous les niveaux. Donc... Je voulais juste ajouter ça.
Pour revenir sur le conflit à Gaza, d'abord Netanyahou n'a aucun projet politique. Quand on fait la guerre, il faut savoir pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qui va en sortir. Aujourd'hui, il n'a aucun projet politique. La seule chose qu'il vise, ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir, ou 15, je ne sais plus, la seule chose qu'il a toujours visé, c'est à laminer le peuple palestinien, à faire qu'il n'existe plus. Et on l'a vu quand on a fait ces désastreux accords d'Abraham, où, avec le soutien des États-Unis de Trump, parce qu'il faut bien dire des États-Unis de Trump, et notamment de Jared, je ne sais plus comment, son gendre qui est venu s'entremettre, on a pris des accords avec un certain nombre de pays arabes, sans jamais parler du peuple palestinien qui existe, qui est sur sa terre, enfin qui essaye d'exister, et c'est quand même assez énorme. Et toute la politique
qui a des droits,
et qui a des droits, absolument. c'est toute la politique de Netanyahou a consisté à faire que l'on oublie les Palestiniens. Et aujourd'hui, il est recherché, on le sait, il est poursuivi par la justice. Et c'est pour ça qu'il s'est allié avec certaines personnes qui étaient ravies de trouver là un tremplin. On assiste en Cisjordanie, par exemple, à l'implantation de colonies qui n'ont rien à y faire et qui violent complètement les accords précédant le droit international. Et surtout, on assiste au fait que les colons, qui paraissent extrêmement agités, pour ne pas dire excités aujourd'hui, se permettent de défourailler à tout va et de tirer sur les Palestiniens de Cisjordanie. Il y a quand même un problème que l'on n'évoque pas là, il faudrait le dire.
Et qui n'est pas neuf.
Et qui n'est pas neuf, ça a toujours existé. Donc, Netanyahou, comment va-t-il en sortir ? Bien, soit il va attraper, emprisonner ou tuer les patrons du Hamas et il va se refaire une espèce de virginité politique, parce que là, quand même, je pense que une fois cette guerre terminée, beaucoup l'attendent au tournant. Soit il n'y arrivera pas. Que se passera-t-il ? Il a quand même très mis à mal la démocratie israélienne, qui est une vraie démocratie, mais qui aujourd'hui et ils ont voté quand même. Hein, donc quand on vote, on sait pour qui on vote.
Vrai, mais il faut faire attention. L'histoire montre que ça produit le pire. Hein.
Oui, et là nous sommes au pire et on ne peut pas accepter que ce soit une vengeance qui s'exerce à l'égard d'un peuple qui a été pris un peu en tenaille et dont personne ne parle aujourd'hui. Et puis on voit la situation. Moi, je pense que l'Iran est ravi de cette situation, allié à Monsieur Poutine. Alors, je ne sais pas s'il faut voir là-dedans la main de l'Iran véritablement ou s'ils l'ont fait que tolérer. Enfin, en tout cas, ils ont armé vraisemblablement. Est-ce qu'il faut voir la main de Monsieur Poutine qui, en ouvrant un deuxième front avec les démocraties, va essayer de se refaire un peu sur le front de l'Ukraine. Enfin,
il y a objectivement tout intérêt.
Oui, alors, tout cela ne serait pas étonnant. Il serait même étonnant qu'il ne soit pas lui-même à la base un peu de cette histoire avec ses complices iraniens. Donc nous sommes sur une planète de plus en plus chauffée à blanc, de plus en plus morcelée. La situation me paraît extrêmement dangereuse. Et puis n'oublions pas, et Lodan, vous rappeliez le conflit ukrainien, il faut pas l'oublier, il semblerait, et c'est désastreux qu'il y ait comme une certaine lassitude de certains pays devant le soutien que nous apporte à l'Ukraine. L'Ukraine qui n'avance pas dans sa contre-attaque, mais encore eût-il fallu qu'on lui donne des moyens technologiques lui permettant d'avoir une supériorité, ce que on a toujours refusé jusque-là. Donc c'est aussi un problème. Et puis n'oublions pas non plus que l'année prochaine, Monsieur Trump va peut-être se représenter si ses ennuis judiciaires ne l'en empêchent pas. Et s'il est élu, ce qui n'est pas une hypothèse d'école, s'il est élu, nous allons voir aussi certainement un homme qui va mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Enfin, on pourrait faire des heures d'émission sur ce sujet. De toute façon, nous y reviendrons parce que malheureusement, j'ai peur que dehors de notre prochaine émission, la plaie soit toujours à vif. Et c'est un euphémisme, bien sûr. Écoutez, surveillons tout ce qui se passe et restons droits dans nos bottes en essayant de plaider pour une paix et surtout revenir à ce plan où deux États pourraient cohabiter si certains, pour des intérêts personnels ou par médiocrité intellectuelle, ne se mettaient pas en travers. Et quand je dis médiocrité intellectuelle, on peut peut-être parler tout simplement de, je ne sais pas, Jean-François, comment le qualifier, mais partisan, c'est un esprit partisan qui anime Netanyahou. Troupes qui veulent éradiquer complètement la présence des Palestiniens.
C'est on pourrait dire que c'est le communautarisme porté à quintessence, puisque effectivement c'est le fondement des positions.
Alors le gouvernement de Netanyahou, c'est une chose, les Israéliens, c'en est une autre, et notamment nos compatriotes qui sont d'origine juive n'ont pas grand-chose à voir dans ce débat, et je pense que leur tomber dessus à bras raccourcis. Alors on a vu quand même que certains tags étaient animés par
justement la petite main de Moscou,
la main de Moscou, mais il y a pas quand même que ça, hein, il y a beaucoup de gens qui se lâchent. Moi, je me souviens d'avoir reçu à mon micro un Israélien qui était un rabbin. Et à un moment, dans la conversation, il m'a dit « Mais vous savez, il y a quand même quelques années de ça, vous savez, j'ai l'habitude, dans la rue, certains me crachent dessus. » Et quand il m'a dit ça, je ne savais plus quoi dire. Je crois qu'il y a eu 15 secondes de blanc. J'étais incapable de rebondir tellement je trouve ignoble ce type d'attitude envers nos Français, même d'origine du.
Bon, voilà, quel qu'il soit
d'ailleurs.
De quelque origine qu'il soit.
Que ce soit eux ou les autres. Bon, cela étant dit, passons à notre deuxième sujet, sachant qu'on reviendra sur le premier, comme je le disais tout à l'heure, ce fameux projet de loi sur l'immigration. Donc, énième projet à l'étude actuellement par le Sénat. Face à un nouveau dialogue de sourds, vraisemblablement, hein, entre ceux qui considèrent que la France est trop accueillante, ceux qui voudraient qu'elle le soit plus, un débat qui se déroule sur fond d'attaques et d'assassinats terroristes, et notamment d'enseignants, ce qui implique que l'émotion, je vous renvoie à ma citation de début d'émission, ce qui implique que l'émotion prendra une fois de plus le pas sur une réflexion véritablement documentée. Un débat sur un des sujets des plus sérieux et actuels, mais qui va être pollué, comme celui dont on vient de parler d'ailleurs en France, par des partis politiques moribonds essayant d'exister, comme les Républicains, qui vont tenter de mordre sur l'électorat d'extrême droite, le Rassemblement National, qui va classiquement faire jouer les peurs en agitant des fake news dont il est friand sur le sujet. Quant à la gauche, mais au fait, laquelle? Est-ce qu'elle existe encore? Là est la question. Bref, cette problématique qui pose de vraies questions aux responsables politiques, des questions juridiques, matérielles, sociales, économiques et même et surtout peut-être morales, va-t-elle recevoir le traitement qu'elle mérite? Va-t-elle donner lieu à un débat de bonne tenue? On peut en douter. Mais ce qui ne supporte pas le doute, par contre, c'est que cela finira certainement par le recours à l'initiative du gouvernement au fameux article 49.3. Jean-François ?
Ben oui, alors pour le 49.3, je rappelle juste que nous en sommes à sa 16e application, hier je crois, concernant le vote sur le budget de l'État, excusez du peu.
Là, il y en a un qui a dit, je ne sais plus qui a dit, de toute façon, ça n'a porté que sur deux thèmes, les retraites et le budget.
C'est vrai, des broutilles. Broutilles, voilà. Oui, bien sûr que c'est. Alors, c'est de toute façon, le gouvernement est au regard de son assise et de sa légitimité, n'a vraiment plus que le 49.3 comme outil. Tout ça d'ailleurs dans une espèce d'apathie qui gagne les commentateurs politiques qui semblent en avoir fait leur quotidien, quoi. Voilà, mais pour revenir sur la question du projet sur l'immigration, je voudrais juste rappeler que c'est un long parcours, cette affaire-là. Ça fait un moment qu'on nous le prépare, qu'on nous le montre, qu'on nous le cache. Et il me semble que c'est un bel exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure, y compris au niveau des en rapport avec ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est l'utilisation pour des alors c'est pas nouveau, mais je pense que ça signe un palier de plus dans la dégradation des mœurs et des pratiques politiques de notre pays et ailleurs. Alors les États-Unis sont assez forts là-dessus, mais vraiment on s'aligne. C'est l'utilisation d'à peu près n'importe quelle thématique au bénéfice d'une stratégie politicienne de communication qui se fait sur le dos des citoyennes et des citoyens, quels qu'ils soient. Là, c'est sur l'immigration que ça se joue. Et on voit bien que on fait monter les enchères à droite, à l'extrême droite, et que le gouvernement, pris dans la nasse, effectivement, de son assise politique relativement faible, est en train de s'aligner. Tout ça avec un arrière-fond de concurrence interne au gouvernement sur une fin de règne qui approche, hein, où on voit des ministres d'État se positionner pour l'avenir. Hein. Et là, on a un Darmanin issu de la droite et quand même très très en pointe sur la droite extrême, ce qui veut dire en règle générale que c'est plus très très loin de l'extrême droite, se faire un précaré politique sur le dos. Je rappelle déjà, parce que concrètement ce qui va se passer, alors on en a un avant-goût sur ce qui va se passer, sur les décisions que prennent le Sénat, qui est devenu, je veux dire, là aussi, un laboratoire de la droite extrême et l'extrême droite, je pense à l'aide médicale d'État, dont le Sénat a proposé la suppression.
Somptueuse stupidité.
Voilà.
Bon, parce que ça coûte pas très cher.
Non, d'une part, c'est pas très très cher. Et deuxièmement, en termes de santé publique, n'importe quel connaisseur, et là, on parle pas d'expertise de haut niveau en termes de santé publique, c'est très très bien que cette question ne concerne pas la santé, des étrangers, mais concerne la santé de tout le monde. Ce qui veut bien dire que nous sommes en dehors de toute raison politique et toute raison, j'avais envie de dire, raison rationnelle.
On a d'ailleurs vu tout un collectif de médecins qui savent de quoi ils parlent, puisqu'ils sont sur le terrain, les mains dans le cambouis, s'élever contre cette bêtise.
Oui, alors on est là aussi dans l'irrationnel, effectivement, le plus complet. Ça devient très compliqué, parce que tout ça, en plus, quand on y réfléchit un peu, quand on le suit un petit peu de près, comme certaines associations le suivent, on peut constater qu'on en est dans des espèces de jeux à deux billards à trois ou quatre bandes, dans lequel on présente des espèces de textes qui se voudraient équilibrer, hein, vous savez, le fameux « en même temps », à la sauce, là, pour le coup, immigration, et dont on va jouer de l'excès d'une chambre contre une autre, pour à la fin de la partie, sortir avec, effectivement, vouloir sortir avec une image qui est une image un petit peu raisonnable, ce qui se traduit par le fait que nous en sommes à une énième texte sur l'immigration avec des effets qui sont des effets cliqués, c'est-à-dire que chaque fois c'est un peu plus dur, que chaque fois on détruit des vies de personnes, alors on les détruit en amont, quand ils se noient, on les détruit pendant, on les détruit après en renvoyant dans des pays dans lesquels les gens peuvent à peine survivre. Tout ça pour effectivement des carrières qui sont des carrières politiques. C'est là aussi, bon, peut-être que là, la tonalité ce matin est un peu noire.
Oh, mais non, on n'a jamais été tellement optimiste.
Non, on n'a jamais été complètement optimiste, mais... là, ça devient vraiment inquiétant quand on connaît un peu de près, effectivement, les gens qui sont directement concernés. Voilà.
Tout à fait.
Léonore, vous qui avez l'avantage d'être à la fois française et colombienne, et donc d'avoir aussi un regard peut-être un peu plus décalé, un peu extérieur sur cette question.
Tout à fait. Alors, pour comprendre un peu aussi sur le qu'est-ce que ce projet d'immigration et quels sont les aspects qui sont touchés, on va dire qu'il y a la santé, la réforme de la santé, l'intégration, l'Eurogroupement familial. Il y a quelque chose aussi qui est important parce qu'après l'événement avec le professeur à Arras qui s'est passé, il a été tué, donc cette pensée de l'expulsion des personnes sur le territoire. Donc ça affecte énormément des aspects. Mais j'aimerais bien dire que si on le voit d'un point de vue comme ça, on se dit, oui, la France elle doit prendre des mesures, mais c'est que dans cette loi, il y a des gens qui vont être affectés, mais c'est d'une manière assez compliquée pour leur vie parce qu'ils n'ont pas des opportunités pour revenir à leur pays. Je ne parle pas de la délinquance, non. Je parle au niveau de l'intégration, je parle au niveau de la réforme de santé, parce que c'est une situation dans laquelle les gens se retrouvent dans un problème critique, c'est-à-dire qu'on utilise, le gouvernement utilise maintenant avec une telle facilité le 49.3 que qu'on ne pense pas les conséquences quand on parle de la santé. Ils disent que la santé, au niveau du système de la santé, c'est il y a énormément des étrangers qui en profitent et que ça fait un surplus de budget de la nation. Également la réforme du système d'asile. Donc on remarque que c'est vrai que depuis des années, depuis que je suis en France, je parle au niveau personnel, j'entends souvent dire, voilà, il y a une blessure dans nos systèmes, une brèche, chaque fois elle est plus grande dans nos systèmes de la santé, dans nos systèmes éducatifs, et c'est à cause des immigrants. Je dis, non, pas forcément. C'est que si les lois vont s'endurcir, mais de plus en plus, on le voit, c'est pas simplement maintenant dans le gouvernement de Macron, quand il y a Sarkozy, à Hollande aussi, et chaque gouvernement amène un changement à la loi d'immigration. Parce qu'on voit toujours les immigrants comme des gens qui sont dangereux. Pas tous. Donc, il faut dire que on a besoin des immigrants pour faire... La France, elle est connue pour être un pays, une nation qui a la multiculturalité. Et le fait d'endurcir des lois comme ça, ça peut créer des blessures. Des blessures dans notre société. Parce que également, on peut aussi créer une espèce de violence pour les gens qui n'ont pas de papiers, pour l'adaptation. Mais il y a quelque chose qui est intéressant de cette loi, c'est-à-dire qu'ils vont donner, ils vont permettre de réglementer les gens qui sont sans papiers pour qu'ils puissent travailler, qui sont maintenant sur le sol français. Donc c'est quelque chose de positif parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent et malheureusement leur travail n'est pas déclaré. Et ça crée aussi des situations de conflit. Donc moi ce que je tiens à dire c'est que ce gouvernement de Macron est connu par utiliser la force dans les lois. Et je trouve qu'il y a certaines blessures qui se réveillent dans l'histoire parce que je parle pas simplement de l'immigration, aussi des conflits qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à Israël et Gaza, mais le conflit actuel qu'on a dans ce pays concernant l'immigration, c'est que ça mène une déchirure, mais ça mène une division également. Une division auprès des gens qui viennent en train de chercher une opportunité pour vivre. Si la France, elle était connue pour être un pays d'asile, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut devenir d'ici à quelques années.
Bien, c'est un sujet sur lequel on va être amené à revenir.
Parce oui,
que là, nous ne sommes que sur un projet qui est au Sénat. Sénat a durci le texte.
Oui.
On le sait, Monsieur Retailleau.
Se refait une virginité refait toujours plus à droite.
Une virginité, bien sûr. Peut-être que ça agace un peu aussi Monsieur Larcher, on a cru le comprendre, mais enfin pour l'instant c'est comme ça. Ce texte va venir devant le Sénat, va partir plutôt du Sénat pour aller à l'Assemblée, et devant l'Assemblée, on va tout remettre à plat.
Bien sûr.
Et c'est l'Assemblée qui de toute façon aura le dernier mot d'une façon ou d'une autre, 49-3 ou alliance avec vraisemblablement ce qui reste du Parti Républicain. nous
s'il résiste jusque là.
S'il résiste jusque là, voilà. L'avenir nous le dira, mais c'est un sujet qui n'est pas neutre, c'est un sujet qu'il faudra réfléchir aussi. On n'en parle pas, mais on a des retraites à payer, on a des travailleurs dont on a besoin. L'Allemagne a su, Madame Merkel, qui n'a pas eu que des réussites, mais Madame Merkel a su faire rentrer à une époque un certain nombre de travailleurs immigrés. Elle savait parfaitement pourquoi, face à une population vieillissante. Donc ça, il faudra y penser. Puis il y a autre chose qui va nous amener vraisemblablement des immigrations forcées, c'est le réchauffement climatique. Alors, ça va pas arriver immédiatement dans les 3 ans qui arrivent, les 5 ans qui arrivent, mais on sait très bien que quand on est en train de griller quelque part, eh bien, voilà, on se sauve. Hein, c'est.
Mais le réchauffement climatique, non seulement va modifier les choses à l'extérieur, mais va modifier nos propres conditions à nous, et y compris va poser différemment la question qui est la question des migrations. Bon,
c'est, mais ça, on s'en préoccupe pas du réchauffement climatique, parce qu'il paraît, il paraît que ça n'existe pas. On parlera à la fin dans le Ça va mieux d'un certain A69.
Ah, oui, d'accord.
Voilà, où toute la classe politique locale, grande et petite, promeut ce type d'équipement dont on sait aujourd'hui que c'est complètement farfelu. Mais, Ne nous égarons pas, ce que nous sommes en train de faire, ce que je suis en train de faire.
Mais vous ne vous égarez jamais.
Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on fera quand même une spéciale sur l'immigration, parce qu'il faudrait parler de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, juridique, sociale, économique, parler de l'intégration qui ne se fait pas, et dire pourquoi elle ne se fait pas. Hein. Il y a des raisons tout à fait objectives là-dessus. Et puis parler aussi du fait que l'injonction d'accueillir les immigrés, ça tombe toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur les mêmes quartiers, sur les mêmes classes sociales, et on est en train de créer là des conflits qui renforcent le Front National et qui n'ont pas lieu d'être. Mais nous y reviendrons. Venons à ce troisième sujet, ces élections en Argentine, parce qu'il n'y a pas que la France et l'Europe, il y a le monde qui continue à tourner, il y aurait beaucoup de choses à dire sur beaucoup de pays. J'ai choisi les élections en Argentine. Vous savez que tous les sondages donnaient le libertarien Javier Milei vainqueur avec une large avance, l'homme à la tronçonneuse, donc il a obtenu 30,2% des voix au premier tour de la présidentielle, et son rival Sergio Massa, qui est le ministre de l'économie, a obtenu 36,3%, donc il est le ministre de l'économie de la coalition péroniste de gauche sortante. Le vote est obligatoire en Argentine, le scrutin a quand même, et malgré cela, été marqué par une abstention record. Il n'y a eu que, mais on aimerait qu'il y ait la même en France, 74% de participation, 74% bien sûr, mais quand même un recul de 9 points par rapport à 2019. Et pour le deuxième tour, le 19 novembre, ça approche, les deux hommes vont se disputer, notamment les voix de la droite traditionnelle qui a été éliminée, avec 23,8% à Madame Patricia Bullrich. Voilà, alors on pourrait parler de l'état économique, hein, puisque le ministre de l'économie a été incapable de juguler une inflation de 140%, excusez du peu, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le dollar atteint 1000 pesos au marché noir et le PIB perd 3,3% par an. Que va-t-il se passer? Là-dessus, j'aimerais et nous aimerions bien entendre votre analyse, Léonore.
Alors l'Argentine, le pays des Maradona et des Messi. C'est vrai que la crise argentine, c'est compliqué parce que l'inflation, elle touche à 38% d'inflation, ce qui est énorme. L'Argentine, c'est compliqué à expliquer dans 2 minutes, mais il faut comprendre que c'est le péronisme qui a été le gouvernement, la ligne politique de l'Argentine, et la situation économique actuelle fait que le pays se trouve dans une crise dangereuse. Les gens sont dans un niveau de pauvreté chaque fois plus profond. Les gens n'arrivent pas à finir leur mois. La nourriture a augmenté et le fait d'avoir dollarisé le pays, ça fait que ça crée un marché en parallèle, marché noir. Donc les gens, ils sont dans une situation donc ils ont peur, mais en même temps ils veulent un changement. Et au niveau personnel, je me dis que Et il y a, c'est vrai qu'il y a le série Marsa, le ultra-libéral, et c'est, il souhaite amener un changement étranger dans l'économie. Mais c'est vrai que l'état d'esprit des Milley attire les Argentins, parce qu'ils veulent un changement. Et c'est Milley qui propose vraiment ce changement de fond. Lui, il propose même changer la banque, changer la monnaie, changer l'économie. Mais il est radical. Donc je crois que les Argentins, ils se penchent dans cette idée de dire, on a essayé avec la droite, on a essayé de faire des choses dans d'autres politiques, dans d'autres pensées, on a donné la confiance, mais on n'a pas obtenu des changements. Donc je crois que dans ce sens, Milley a une forte chance qu'il obtient le pouvoir en Argentine. Il est très charismatique, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler, mais c'est un homme qui sait diriger les masses. Il sait parler aux masses, donc il y a un côté de violence dans son discours.
C'est un populiste comme Trump.
Tout à fait, tout à fait. Donc, et même à un point de vue de caricature, parce qu'il utilise des exemples proches pour critiquer la politique adverse, donc ça fait que les gens ils se sentent identifiés. Est-ce que sa politique, ça va marcher? On verra. On ne sait pas s'il va gagner les élections, mais en tout cas, je crois que les Argentins, pour ce que j'ai entendu, et parce que je suis la politique de l'Amérique latine de proche, et c'est vrai que les gens, ils sont cette idée d'un changement. Peut-être, on peut avoir une surprise, parce que Milley, il amène un affrontement violent. Il veut changer complètement la politique argentine.
Mais rappelons quand même qu'il est opposé à l'avortement, qu'il doute de l'origine humaine du changement climatique, qu'il considère l'homosexualité comme un handicap et qu'il célèbre tous les jours Victor Orban, Giorgia Meloni et Marine Le Pen, toutes personnes qui sont quand même, qui peuvent, au regard de certains, sentir le soufre.
Mais n'oublions pas que l'Amérique latine, les pays de l'Amérique latine, c'est des pays très religieux. Donc ça fait que ça parle.
Très religieux.
Mais oui, l'Amérique latine.
Oui, c'est... très religieux peut-être, mais vous savez ce qu'a dit Léonore Javier Milei sur le bon pape François. Vous avez entendu comme il lui a, on va le dire, qu'il lui a craché dessus quand même.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que l'Amérique latine, même si on critique le pape.
Ah, on vous a perdu, Léonore, là. Voilà, c'est le problème du duplex et de l'éloignement. Ben, on va peut-être en terminer par là, mais vous ne vous êtes pas exprimé, Jean-François,
non, sur cette question. Non, alors je me suis pas exprimé parce que là, pour le coup, je laisse parler les gens qui ont beaucoup plus de compétences que moi pour m'exprimer. Mais je voudrais... Alors, deux choses, je peux dire, voilà, c'est d'une part, c'est vrai que c'est... Ce qui paraît inquiétant, c'est cette multiplication un peu partout dans le monde de ces paillasses politiques, paillasses au sens du pitre, hein, qui se donc cette multiplication et le fait que on se dit qu'on n'est vraiment pas à l'abri de voir arriver ce genre de choses-là dans notre pays. Si quand on regarde ça de manière un peu égoïste et sans citer de nom. La deuxième des choses, par rapport à ce que vous disiez, une remarque. Je pense que il est pas contradictoire d'être à la fois religieux et d'être contre l'institution d'une église. C'est la foi qui est importante. C'est pas l'approche rationnelle et scientifique qui est importante. C'est en ce sens-là, me semble-t-il, que c'est religieux.
Ce voyage en Corse vous aurait-il amené une révélation quelconque, Jean-François?
Pas du tout. Je suis un vieux durkheimien, un vieux sociologue durkheimien qui pense que le religieux, c'est ce qui relie les gens et qui leur donne une identité sur quelque chose de l'ordre de valeurs partagées, d'ancêtres, etc., etc. Et que l'Église c'est l'institution, c'est pas contradictoire d'être à la fois très religieux et de ne pas se reconnaître dans une institution qui temporairement
a le pouvoir dans ce qu'est une église. Je veux dire que certainement que le triste sire dont on parle se serait reconnu, se reconnaîtrait davantage dans un autre pape que le pape actuel, voilà. Mais le religieux, au sens, me semble-t-il, que c'est la foi partagée et sur un registre identitaire qui structure les sociétés d'Amérique du Sud. Voilà, c'était juste. Mon voyage en Corse m'a relativement peu fait évoluer sur mon rapport au religieux, on va le dire comme ça.
L'heure a sonné de nos rubriques de fin d'émission. Je pense que notre camarade Léonore Socaras a eu un problème de téléphone et peut-être de batterie. Nous étions sur son portable.
Oui, c'est loin l'Amérique latine.
Voilà, c'est très loin. Et l'université à Toulouse n'est pas si loin que ça pourtant, mais ça marche pareil. Ouvrons les brèves. Alors, je vais les ouvrir. Moi, je voulais vous parler du coût des Jeux Olympiques absolument immaîtrisé aujourd'hui. Finalement, la lecture du Canard enchaîné, je suis un lecteur assidu de cette feuille totalement libre, ce journal totalement libre, m'a amené à vous parler de deux sujets rapidement. Le premier, c'est un article en première de page sur le Rassemblement National. On le dédiabolise, ils sont très policés chez nous aujourd'hui.
Ah,
ils sont bien.
Cravate et gomina.
Voilà, mais aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe au Parlement européen, ce qu'il nous dit le Calangène, citant par ailleurs le Nouvel Observateur, qui a analysé les votes des 18 députés francistes, parmi lesquels d'ailleurs Monsieur Bardella, le patron du parti, depuis le 19. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, ça vous étonnera pas, poutinophilie, antiféminisme, écoloscepticisme, europhobie, parce qu'ils en ont un signal que nous avons récupéré, Léonard. On voit Monsieur Thierry Mariani, par exemple, qui est un soutien de Monsieur Poutine.
Ah, une référence
intellectuelle, effectivement.
Éthique, bien entendu.
Voilà, ils n'aiment pas qu'on calomnie le régime russe. Et quand on regarde leur vote, eh bien, ils ont voté contre une résolution condamnant les violations des droits humains, dignes de celles du Hamas, d'ailleurs, commises par la milice Wagner en Syrie et au Sahel. Le mois suivant, ils ont voté contre une résolution de soutien à l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de l'Ukraine. La défense de l'environnement ou la biodiversité, là, ils votent chaque fois contre ou ils s'abstiennent. Quant à l'égalité des hommes et des femmes, de la lutte contre le harcèlement sexuel et les droits des LGBT, la dépénalisation universelle de l'homosexualité, elle n'a jamais obtenu leur soutien, même ils sont allés plus loin. Le 19 octobre, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov acquis au mouvement iranien Femmes, Vie et Liberté et à Jina Mahsa Amini, jeune kurde tuée par la police. Eh bien, le RN n'a pas soutenu ce vote. Ils voulaient voter, eux, pour le milliardaire Elon Musk. C'est vous dire le niveau. Et puisque je parlais d'Iran, c'était une brève qui n'était pas tant que ça, mais une deuxième qui m'a un peu sidéré. L'Iran qui pratique à peu près, on ne sait pas trop, mais environ 2 exécutions capitales par jour, a été choisi par l'ONU pour présider le forum social de son comité des droits de l'homme les 2 et 3 novembre à Genève. Donc on reste quand même un peu quoi de on sait quoi dire là quand on voit ce genre de choses, on se dit que effectivement tout ça dysfonctionne comme la planète d'ailleurs. Jean-François, une brève.
Oui. Une brève, mais dans la série Dysfonctionnement de la planète, l'ONU et les ONG annoncent qu'en 2030, c'est-à-dire les États dans le monde, prévoient de produire 2 fois trop de combustibles fossiles par rapport à leur engagement et leur objectif de limiter. De limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Autrement dit, on est quand même mal parti pour s'en sortir au moins à moyen terme.
Oui, voilà. Surtout qu'on parle de 4 degrés à la fin du siècle. C'est même notre ministre d'ailleurs de l'environnement, puisqu'il paraît qu'il existe, qui parle de.
On en aurait un
et qui dit 4 degrés. Il faut qu'on s'organise. Donc, vous voyez que tout ça est très
garçon,
mal parti.
Un garçon lucide.
Léonore, une brève et ravi de vous avoir retrouvé.
Nous mordions les poignets.
Oh, mais bon, j'ai suis pas fini de parler de l'Argentine, mais la prochaine fois, oui.
Oui. On y reviendra parce que là, on aura le résultat définitif. Ça va quand même amener beaucoup de commentaires. Donc, ne vous désolez pas. Vous nous en reparlerez prochainement.
J'aimerais bien parler d'une brève sur Tiseo, et ce qui se passe avec les syndicats. Et, parce qu'ils ont mis en place une grève. Mais, voilà, ils ont enlevé la grève, mais l'histoire, c'est que maintenant, le 20 novembre, ils vont décider, le tribunal va décider si ces blocages ont été illégaux ou non. Et s'ils sont condamnés, ils vont devoir payer 40 000 euros chacun pour ceux qui ont organisé la grève à Tiseo. Donc, je voulais parler de cette grève.
Et de ces enjeux effectivement très importants. Rubrique ça va mieux. Alors moi je vais vous faire part d'un bruit qui reste quand même à vérifier, un bruit qui a été doux à mes oreilles hier quand je l'ai entendu. Beaucoup de gens au conseil départemental s'interrogent. Ils ont même, peut-être certains sont arrivés aussi à la conclusion, mais nous le verrons, ils s'interrogent sur la pertinence de cette autoroute Toulouse-Castres à 69, dont on a beaucoup parlé, une hérésie environnementale et même certainement économique. Il y a des gens qui commencent à se dire que peut-être trop c'est trop et qu'il va falloir stopper le mouvement. Alors voilà, c'est un bruit, nous allons voir s'il se confirme, mais ce serait peut-être une bonne chose et ça nous permettrait un peu d'avoir une vision peut-être autre de nos élus régionaux et locaux. Jean-François ?
Et dans la même veine, tiens, le doute s'insinue chez les productivistes, mais le 3 octobre, c'était donc il y a quelques semaines, le tribunal administratif de Poitiers, qui est infiniment plus courageux que celui de Toulouse, dont on sait sa facilité à s'aligner sur l'exécutif d'une seule tête, quant au fait que les enfants dorment à la rue ou les manifestations de soutien au peuple palestinien.
À Poitiers, ils se mettent pas martel en tête.
C'est clair. Et donc, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le programme concernant 15 mégabassines. À raison de leur disproportion quant aux objectifs qu'elles visaient pour ce qui était de l'irrigation ou des choses comme ça. Autrement dit, ça doute. La 69 d'un côté, les mégabassines de l'autre, les élus, les magistrats, peut-être, et ça va, et ce serait mieux, peut-être que... Il y a une prise de conscience assortie surtout d'actes qui commencent à se faire jour concernant ces enjeux de ces projets-là.
Léonore, votre ça va mieux, si vous en avez trouvé un.
Ça va mieux. Et on souhaite un bon voyage à Thomas Pesquet parce qu'il est parti pour la Lune.
Il pourra peut-être y rester, commencer une implantation là-haut.
Alors, il y a un programme qui s'appelle Artemis, la Cité de l'Espace. Donc, ils vont créer à la Cité de l'Espace maintenant un équipement immersif pour que les gens puissent vivre l'expérience de comment ça se passe quand les gens partent à la Lune pour explorer. Donc, ça ouvre le 14, ils vont inaugurer le 14 novembre. Ça s'appelle Lune Explorer. Donc, voilà, c'est un moment de découvrir comment ça se passe à la Lune.
Nous regarderons ça. Monsieur Musk veut aller sur Mars, donc pour l'instant on s'arrête à la Lune et c'est déjà beaucoup.
C'est vrai que quand on pratique un peu la Terre, on aurait tendance à aller voir ailleurs.
Oui, c'est tout à fait. On comprend ce bon Pesquet. Allez, le dernier, le conseil culturel. Pour ma part, j'en ai deux très rapides. De Didier Lesky, Trac Gallimard, 4,90€, très abordable. Ça s'appelle Ce grand dérangement, l'immigration en face. Didier Lesky est un fonctionnaire français, il est préfet. Il est spécialiste des relations relatives au culte et à la laïcité. Et surtout, il est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis 2015 et président de l'Institut européen en sciences des religions depuis 2018. Et son tract est tout à fait remarquable. Et je crois que avant de véritablement pouvoir se positionner et débattre sur cette loi sur l'immigration, la lecture de ce document me paraît incontournable. Et également, je vous rappelle un film qui est pas nouveau, qui avait donné lieu à une émission sur cette antenne. Ça s'appelle Le Chat et l'Olivier, c'était sous-titré Une autre histoire de la Palestine. C'était très bien filmé par Roland Nurier. Ça rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés qui apportent un éclairage tout à fait inédit sur l'histoire de la Palestine. Alors, il y a analyse géopolitique, interview de personnalités des deux bords, de personnalités également internationales, expertes sur le sujet, citoyens palestiniens, français, etc. C'est un documentaire qui propose des clés de compréhension qu'il serait bon aujourd'hui de revoir, et nous remettrons très rapidement en ligne, en avant plutôt, puisque vous avez cette émission Cap Cap sur le char et l'olivier, où j'avais reçu Roland Nurier, nous le remettrons en avant. Jean-François.
Oui, alors, Par la porte ou par la fenêtre, c'est le titre d'un film, c'est l'extrait d'une phrase qui avait été prononcée par le directeur de Orange France Télécom, qui avait dit « En 2007, d'une façon ou d'une autre, je ferai les départs par la porte ou la fenêtre ». Quand on connaît l'histoire de France Télécom, de la souffrance au travail, des gens qui se sont suicidés, ce film était vraiment d'intérêt public. C'est Jean-Pierre Bloch qui l'a réalisé. Il vient de sortir. Pour les Toulousains, je signale une séance particulière organisée par les Amis du Monde Diplomatique le 8 décembre à Utopia Borde-Rouge. À Borde-Rouge, tout à fait. Et je pense que faut aller voir ce film-là, parce que c'est quand même une tranche d'une vie dans les entreprises françaises et multinationales.
Léonore, le mot de la fin est pour vous, avec votre conseil culturel.
Alors, vous êtes à Toulouse, je vous invite de participer à Locombia, c'est un festival, ça a commencé la semaine le week-end dernier, et notamment lundi, avec des œuvres de théâtre, des musiques, et il y a des concerts ce week-end, et jusqu'à dimanche, donc je vous invite à participer à Locombia.
Eh bien, la musique adoucissant les mœurs, ça tombera tout à fait bien. Voilà, merci à tous les deux.
Merci Jacques.
Voilà, c'était Ça va mieux, l'émission de Jean-François Mignard, Léonore Saccaras et Jacques Lavergne. Au bouton, Léo Touroult, merci Léo. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous ses petits camarades sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.
Merci.